je suis ravie d'être invitée à Radio G.
Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir.
Et ce temps de parole, honnêtement, est très précieux. Donc merci à vous.
À tout à l'heure.
Radio G.
Bonjour à tous, il est 9h, bienvenue sur Radio J, nous sommes ensemble jusqu'à 10h en ce jeudi 16 mai. Excellente matinée à vous chers auditeurs.
Radio J, le 9-10, Léa Moscona.
Allez, rapidement, le sommaire, comme je vous le disais, d'abord le billet de Richard Prasquier, juste derrière, Fenêtre sur le monde d'Olivier Douman, et enfin, c'est le direct d'Israël. Nous prenons la direction de Jérusalem ce matin pour connaître l'état d'esprit des Israéliens en ce jeudi 16 mai, et c'est Cathy Choukroun qui nous en parlera.
Léa Moscona.
Radio J.
Radio J.
Mais tout de suite, c'est l'essentiel de l'information avec le journal présenté par Eva Soto. Eva, bonjour.
Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une de l'actualité en Israël, le 223e jour de guerre contre le Hamas et 5 soldats de Tzahal tués ce matin.
Ça s'est passé à Jabalia, une zone réinvestie par l'armée israélienne après que les bataillons du Hamas s'y soient reformés. Ces soldats ont été victimes de ce qu'on appelle des tiramis. Un char opérant aux côtés des parachutistes dans le camp de Jabalia a tiré 2 obus sur un bâtiment où ils étaient rassemblés vers 19h hier soir. Il y a 7 blessés et 5 morts. Correspondance à Jérusalem de Daniel Haïk.
5 soldats israéliens de la brigade des parachutistes sont tombés au combat dans le nord de la bande de Gaza hier. Il s'agit du capitaine Roy Be'er Yaakov, 22 ans, officier de combat du 202e bataillon de la brigade des parachutistes, du sergent Gilad Aryeh Boym, 22 ans, originaire de Karné Shomron, combattant du 202e bataillon de la brigade des parachutistes, du sergent Daniel Chemu, 20 ans, de Tibériade, combattant du 202e bataillon de la brigade des parachutistes, du sergent Ilan Cohen, 20 ans, de Carmiel, combattant du 202e bataillon de la brigade des parachutistes, et du sergent Bezalel David Chachoua, 21 ans, de Tel Aviv.
Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk, l'enquête sur les circonstances exactes de ce drame est toujours en cours.
Dans le nord, cette nuit, Tzahal a frappé Baalbek au Liban.
C'est la frappe la plus profonde dans le pays du Cèdre, à 85 km de la frontière, en riposte à celle d'un drone lancé par le Hezbollah qui a frappé une zone de Basse Galilée hier soir. Tzahal a aussi frappé un site de lancement de roquettes du Hezbollah, celui d'où une quarantaine de missiles ont été tirés plus tôt hier. Et par ailleurs, une attaque au couteau dans la soirée à Jérusalem, ça s'est passé devant un commissariat. Le terroriste a pu être éliminé avant de tuer qui que ce soit.
Au chapitre politique, le gouvernement israélien divisé sur l'après-guerre à Gaza. Benny Gantz, le ministre du cabinet de guerre, apporte son soutien à Yoav Gallant.
Il dit la vérité. Le rôle des dirigeants d'Israël est de faire ce qui est juste pour le pays à tout prix, souligne Benny Gantz dans un communiqué. Le ministre de la Défense rejette toute gouvernance civile ou militaire d'Israël à Gaza après la guerre. Il a publiquement remis en cause les déclarations de Benjamin Netanyahou sur la question. Et le premier ministre lui a répondu hier soir qu'il ne voulait ni de Fatarstan ni de Hamastan à Gaza. Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale tenant de la droite nationaliste, appelle à ce que Yoav Gallant soit limogé.
Une délégation israélienne au Caire, elle est sur place pour tenter d'apaiser les tensions avec l'Égypte sur la question du terminal de Rafah.
Suite à sa prise de contrôle par Israël pour éviter que le Hamas fasse main basse dessus, le Caire a stoppé tout envoi d'aide humanitaire à la bande de Gaza. L'Égypte, opposée à l'opération de Tzahal à Rafah dans le sud de Gaza, compte soutenir l'Afrique du Sud dans ses démarches contre Israël devant la Cour internationale de justice. Selon de hauts responsables au Caire, le traité de paix avec Jérusalem, pierre angulaire de la stabilité régionale, serait en grand danger.
En Grèce, à Athènes, la police a arrêté 3 manifestants anti-israéliens devant l'ambassade d'Israël.
Ça s'est passé hier, ils avaient attaqué les policiers qui sécurisaient les lieux à coups de pierre. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Ces émeutiers avaient participé à une manifestation se présentant comme pro-palestinienne et qui a rassemblé 2500 personnes dans les rues d'Athènes.
Et puis aux États-Unis, le président d'une université d'État de Californie du Sud se met en congé.
Celle de Sonoma, il venait tout juste d'accepter un boycott universitaire d'Israël dans le cadre d'un accord avec des étudiants se présentant comme pro-palestiniens. En plus, Mike Lee venait également d'accepter la création d'un conseil consultatif d'étudiants pour ce qui était appelé la justice en Palestine.
Et enfin, l'instauration de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Des renforts du RAID et du GIGN ont été envoyés sur place.
Les indépendantistes refusent la réforme constitutionnelle pour permettre aux Calédoniens, notamment issus de l'immigration asiatique, de voter aux élections provinciales. Ces violences ont déjà fait 4 morts, dont un gendarme de 22 ans. Pillages, vols, révoltes, agressions. Les habitants sont terrés chez eux dans la crainte. Une centaine de policiers ont été blessés. L'état d'urgence a été décrété. Il est rentré en vigueur à 20h hier soir. Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines, ce matin sur Radio J avec Christophe Barbier.
Quelle que soit votre position, une minorité ne peut pas tenir la population en frayeur par des applications tyranniques, la violence comme on le voit depuis plusieurs jours. Je pense évidemment à ce gendarme et à sa famille, ce gendarme qui a été tué. Je pense évidemment aux blessés. Je pense évidemment à toutes ces familles qui ont été attaquées, notamment les familles des responsables politiques qui portent le texte à l'Assemblée nationale. On voit que leurs familles ont été séquestrées, menacées, puis protégé par le RAID et le GIGN. Moi, je qualifie ces situations d'absolument inacceptables.
Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines, ce matin avec Christophe Barbier sur Radio J. Tous vos Barbiers du matin, c'est à 7h45 du lundi au vendredi et à retrouver sur radioj.fr et sur notre compte YouTube.
Ce programme vous est présenté en partenariat avec Progresscom, l'école de commerce qui réinvente votre avenir. Avec 9 BTS et 2 bachelors en marketing et marketing digital, nous vous ouvrons les portes du succès dans le monde du commerce et de la communication. Informations sur progresscom.fr et sur Parcoursup. Progresscom, devenez les leaders de demain.
Et c'est l'heure de retrouver, comme chaque matin à Jérusalem, notre correspondante Pascal Sunshine, Eva.
Et Pascal, vous revenez ce matin sur le grave accident de cette guerre à Gaza contre le Hamas qui a tué 5 soldats israéliens.
Il s'agit du capitaine Roy Bet Yaakov, 22 ans, du sergent-chef Gilad Ari Boeing, 22 ans, du sergent Daniel Raymond, 20 ans, du sergent Ilan Cohen, 20 ans, et du sergent-chef Betzalel David Shahashua, 21 ans. Ils ont donc, ils appartiennent tous au 202e bataillon de la brigade de parachutistes et ils ont péri hier soir lors d'une opération dans le camp de Jabalia. Une opération doublement tragique car il s'agit d'une erreur d'identification, c'est-à-dire qu'ils ont été victimes de ce que l'on appelle un tir ami. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'on sait que depuis samedi, Tzal est de nouveau entré à Jabalia, ce qui était une zone où les forces israéliennes avaient déjà opéré lors de la première partie de l'offensive terrestre. Ils étaient donc revenus à Jabalia depuis Shabbat. Les différents détachements de Tzal, évidemment, ont chacun des missions qui leur sont attribuées, doivent établir des postes de commandement avancés. C'est un de ces postes de commandement qui a été établi dans un bâtiment, évidemment un bâtiment palestinien. Et ces troupes sont évidemment aussi épaulées et appuyées par des blindés. Ce qui s'est passé, c'est que deux de ces chars qui étaient donc affectés à la protection des troupes d'infanterie ont identifié des mouvements à l'intérieur de ce bâtiment, ont vu apparemment à un moment donné le canon d'un lance-missile sortir par une des fenêtres et ils ont cru qu'il s'agissait de terroristes. Ils ont tiré 2 obus contre le bâtiment, tuant donc les 5 soldats, faisant aussi 8 autres soldats blessés, dont 4 dans un état grave. Donc évidemment un incident tragique, mais dont on comprend qu'il est aussi le résultat, et ça n'est malheureusement pas la première fois, de conditions de combat extrêmement complexe depuis que Tsahal revient donc dans certaines zones qu'il avait évacuées après la première phase de l'offensive terrestre. C'est parce que le Hamas, évidemment, refait ses forces, tente de reprendre le contrôle. On estime que aujourd'hui se trouve à Jabalia environ un millier de terroristes du Hamas. Et ce que fait le Hamas, c'est que en fait, il continue à recruter sur place. Il dispose toujours d'armes, d'argent, de vivres, et il recrute notamment auprès de la population palestinienne la plus jeune, pas nécessairement entraînée, à qui il met entre les mains des armes, des fusils d'assaut, mais aussi des lance-missiles. L'essentiel des attaques, ce sont des attaques de missiles anti-chars contre les blindés israéliens. Donc ces blindés qui doivent évidemment protéger les troupes d'infanterie, mais qui sont eux-mêmes les premiers visés par les attaques des terroristes du Hamas. C'est donc ce qui s'est passé hier soir à Jabalia, avec le résultat tragique que l'on connaît donc maintenant. 5 soldats tués, 8 blessés, dont 4 dans un état grave.
Merci beaucoup Pascal Sunshine. Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem, que vous retrouverez bien sûr cet après-midi dans le Grand Journal présenté par Steve Nadjar, le 14-15 de l'info sur Radio J.
Merci Eva, on vous retrouve tout à l'heure à 9h30 pour le rappel des titres.
Ce programme vous a été présenté en partenariat avec la Prépa Progress Bar-Ilan, votre passerelle pour étudier en Israël. Un programme sur mesure au cœur de l'université Bar-Ilan pour une intégration réussie aux études supérieures en Israël. Plus d'informations sur progress-tlv.com ou au 01 83 80 65 27.
Vous écoutez
Radio J.
Radio J.
Radio J. Il est 9h11 sur Radio J. Excellente matinée à vous. Tout de suite, quelques mots de la météo avec des températures plutôt agréables sur Paris. 14 degrés en ce moment. Nous attendons 19 degrés. Il y a néanmoins quelques nuages, mais pas de pluie annoncée en tout cas pour aujourd'hui et pour demain. Cette pluie, eh bien, on la prévoit, Météo France la prévoit ce week-end, samedi et dimanche, mais avec des températures légèrement en hausse par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc 19 degrés cet après-midi, en ce moment 14. Allez, nous partons en Israël où il fait très beau et très chaud, et là c'est le grand soleil, hein, depuis maintenant quelques semaines. Le grand soleil avec 22 degrés déjà ce matin, ce sera 25-26 degrés cet après-midi, et nous allons doucement vers les 28 degrés pour ce week-end, et toujours sous le soleil à Tel Aviv. À Jérusalem, c'est 17 degrés en ce moment, 25 degrés cet après-midi, le soleil toujours de la partie, et ça va monter même jusqu'à 30 degrés pour samedi prochain sur la capitale israélienne.
Radio J.
Le 9-10, Léa Moscona.
Les transports en commun avec des interruptions, notamment le Transilien J qui est interrompu sur Paris-Saint-Lazare vers Mantes-la-Jolie via Poissy, et ce jusqu'à 12 heures. Donc fortement perturbé, vous le voyez. Également une interruption du Transilien P. Le trafic est interrompu de la Ferté-sous-Jouarre vers Château-Thierry jusqu'à 10 heures également, et perturbé à Paris-Est et Château-Thierry lui-même. On a à part cela des ralentissements, RER A, RER D, E également, et puis les Transiliens H, L et R.
Radio J, le 9-10, Léa Moscona.
Et tout de suite, c'est le billet de Richard Prasquier. Bonjour à vous, Richard.
Bonjour, Léa.
Richard, vous êtes président d'honneur du CRIF, et ce matin, vous vouliez revenir sur la journée du Yom HaZikaron en Israël, un jour de souvenir un peu particulier, et vous êtes revenu justement d'Israël le soir même de Yom HaZikaron.
Il est 20h ce dimanche 12 mai. Sur le vol El Al qui nous ramène de Tel Aviv, tous les passagers se lèvent pour respecter la minute de silence qui, au même moment, immobilise les Israéliens dans les voitures, les maisons ou les rues. C'est le début de Yom HaZikaron, la journée du souvenir aux morts de toutes les guerres que le pays a dû mener et aux victimes du terrorisme. Le lendemain, dans la journée, des millions d'Israéliens iront dans les cimetières, même s'ils ont la chance de ne pas avoir perdu de membres de leur famille. Ils écouteront dans les préaux des écoles de leurs enfants les histoires des anciens élèves tués au combat ou assassinés dans un attentat. Debout, dans l'avion, nous avons tous les mêmes pensées, la même blessure et les mêmes angoisses. Demain soir commencera Yom Hatzmaout, le jour de l'indépendance, sans parade militaire, sans feu d'artifice et sans barbecue familial. Qui, en Israël, a le cœur à faire la fête ?
Alors justement, Richard, comment avez-vous trouvé l'ambiance du pays, l'état d'esprit des Israéliens ?
Le jour de Yom HaZikaron, des roquettes sont tombées dans les champs près de Sderot. Elles n'ont pas déclenché le dôme de fer, mais leur message est clair. Après 7 mois de guerre, le Hamas n'est pas détruit. Il faut être lucide, la situation est inquiétante. Et si je m'en limite au Hamas sans même évoquer le Hezbollah, l'Iran et le nord d'Israël, les objectifs proclamés avec beaucoup d'assurance au début de la guerre n'ont pas été atteints. Ni Sinoir, ni Mohamed Deif n'ont été éliminés. À quelques exceptions près, Tsahal n'a pas pu libérer directement des otages dont on ne sait aujourd'hui combien sont encore vivants. La détresse des familles est épouvantable. Mais on sent que pour certains Israéliens, au-delà des discours convenus et sans même qu'ils veuillent l'admettre, le sort des otages n'est plus au premier plan. Des tiraillements fissurent la confiance envers les États-Unis, l'allié vital. La polémique récente suivant laquelle ceux-ci n'ont pas informé les Israéliens que Sinoir se cacherait encore à Khan Younes, que l'armée israélienne a pourtant déjà fouillé et pas à Rafah, soulignerait aussi un échec supplémentaire des services secrets israéliens. L'ambiance en Israël est donc lourde. Tel Aviv n'est pas tout le pays et mes conversations avec les chauffeurs de taxi sont un médiocre baromètre. Mais depuis mes visites précédentes, l'exacerbation des divisions est évidente entre les colères contre le gouvernement d'un côté et les vitupérations contre les gauchistes de l'autre. Cependant, les avis des Israéliens, quelles que soient leurs opinions politiques, concordent. On ne doit offrir au Hamas aucune victoire, fût-elle symbolique. Or, se présenter comme le maître des horloges, ainsi qu'il l'a fait au cours des négociations récentes sur les otages, et faire croire qu'il acceptait un accord alors même qu'il en dévoyait les conditions, donne à ses sympathisants l'image d'un mouvement courageux et malin, palliant sa faiblesse militaire par son agilité tactique. Autrement dit, dans le narratif victimaire anti-sioniste en noir et blanc, l'image d'un héros dont la sauvagerie passe pour de la vaillance. Contrairement à ce que prétendent les bonnes âmes humanistes, ce sont les victoires du Hamas, symboliques ou non, et fussent-elles ignobles, qui lui attirent des militants. Et pour ceux qui douteraient de cette évidence, il y a le discours du délégué qatari à la Ligue arabe, un proche de l'émir, qui a déclaré que le 7 octobre n'était qu'un hors-d'œuvre, étant donné que les Juifs, c'est bien connu, sont les ennemis de l'humanité. Comme médiateur impartial, on devrait faire mieux que le Qatar. Bien sûr, l'absence de projet crédible sur l'avenir de cette patate chaude qu'est l'enclave de Gaza, dont personne ne veut se charger, est un obstacle considérable pour les militaires israéliens, contraints de retourner dans les zones où le Hamas s'est réinstallé. Mais il en est ainsi. Ne pas savoir ce qui adviendra le jour d'après ne doit pas empêcher de faire son travail le jour d'avant, c'est-à-dire mettre le Hamas hors d'état de nuire.
Alors dans cette atmosphère, Richard, avez-vous trouvé des raisons d'être optimiste ?
Oui. Israël livre aujourd'hui une guerre existentielle contre des ennemis impitoyables, dont beaucoup de gens qui se disent attachés à la liberté ne veulent pas voir que ce sont aussi leurs ennemis. Mais, contrairement aux juifs de l'histoire, les Israéliens ont les moyens de se battre. Ils en ont aussi la volonté. Ce sont des jeunes qui sont venus s'enrôler spontanément alors qu'ils étaient à l'extérieur du pays. Ce sont des jeunes qui vont dans les cimetières le jour du souvenir. Ce sont des Israéliens de toute origine et de tout âge qui se sont conduits héroïquement le 7 octobre, c'est toute une société qui s'est levée contre la barbarie, et seuls en disconviennent les crétins au cerveau embrouillé par les suicidaires idéologies à la mode. C'est toute une société civile qui a montré sa détermination dans un pays où les motifs de colère sont légion, les antagonismes massifs et les calculs politiciens égoïstes encore plus insupportables qu'ailleurs. Mais les histoires des victimes du 7 octobre révèlent d'innombrables actes de courage et parfois d'abnégation. Cela s'appelle le patriotisme, un mot banni du vocabulaire des universalistes sans boussole et dont, à l'Eurovision, la chanteuse Eden Golan nous a donné un bel exemple la semaine dernière. Le fait que le public de 15 pays sur 25 lui ait accordé la note maximale montre que derrière les vociférations haineuses et souvent téléguidées, Israël n'est peut-être pas aussi seul qu'il ne le paraît.
Merci Richard Prasquet, que nous retrouvons tous les jeudis à 9h10 pour le billet d'humeur. À la semaine prochaine.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale de la Fondation Kassib Kojazor? Donnez maintenant au Kassib Kojazor et bénéficiez de 75% de réduction sur votre IFI ou sur votre impôt sur le revenu. Grâce à vous, nous poursuivons notre action sociale auprès de dizaines de milliers de personnes. Appelez-nous sur notre ligne dédiée 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur www.kassib.fr. Avec le Kassib Kojazor, la solidarité nous rassemble.
Radio J. Radio J. Le 9-10. Léa Moscona.
Fenêtre sur le monde avec le journaliste et éditorialiste au cahier Bernard Lazare, Olivier Douman. Bonjour Olivier.
Bonjour Léa.
Olivier, vous vouliez revenir sur l'Eurovision ce matin. Richard Prasquet vient d'en parler à l'instant. L'Eurovision, miroir de la diabolisation d'Israël. Alors, les événements, on les connaît, les huées, les polémiques. Comment interprétez-vous les événements de l'Eurovision? Est-ce un mouvement latent depuis longtemps qui, enfin, je mets entre guillemets, enfin peut s'exprimer? Ou bien, Olivier, est-ce un événement transitoire selon vous?
Transitoire, certainement pas. Un événement latent, c'est un événement latent, je pense qu'il n'était pas si latent que ça, c'est la continuité.
En tout cas, une lame de fond.
C'est une lame de fond. Je vous dis latence, on peut en discuter. Souvenez-vous simplement, c'est d'Urban, on va dire, je dirais pas d'Urban sur scène, mais d'Urban en Europe. Oui. C'est ce qu'on a vécu un peu avant le 11 septembre 2001, donc en août et début septembre 2001, à la conférence d'Urban. Cette violence-là, cette radicalité-là, on la retrouve aujourd'hui en Europe. Il y a un événement qui, pour moi, est très très significatif, c'est ce qui s'est passé à la télévision belge. Lorsque Eden Golan, cette chanteuse, a été qualifiée pour, je sais pas comment on appelle ça, les finales. Enfin, elle a eu une première victoire, on va dire, dans la compétition. La télévision belge, une télévision belge a arrêté ses programmes et a mis un bandeau noir en signe de deuil au regard de ce qui se passait, de ce qui se passe à Gaza et le fait que cette chanteuse israélienne ait été sélectionnée, qu'elle allait passer, je ne sais pas, donc je vous dis finale ou demi-finale, je sais plus trop. C'était pour eux le scandale absolu. Mmh. Donc c'est un révélateur, c'est une lame de fond. Non, c'est pas du tout passager.
Alors, justement, vous parlez d'Eden Golan. Hein. À l'instant, Richard Prasquier parlait de son comportement admirable, hein, qui fait référence au patriotisme des Israéliens. Elle a absolument rien montré de ce qui devait, j'imagine, se passer en elle, hein, dans son corps, dans son cœur, dans sa tête. Est-ce que c'est comme ça, finalement, les Israéliens devraient se comporter, ignorer ce qui se passe en dehors de leur pays?
Je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle façon les Israéliens doivent se comporter. Je ne suis pas moi-même israélien, donc je me garderais bien de leur donner quelques conseils que ce soit. Il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup frappé. Eden Golan est âgé d'une à peu près une vingtaine d'années.
Oui.
Voilà, 20 ans. Il y a une autre jeune femme d'une vingtaine d'années qui s'est battue, qui a manifesté contre elle en Suède, justement, une certaine Greta Thunberg, qu'on connaît assez bien, qui est apparue au départ comme une égérie de l'écologisme. Et Greta Thunberg, on parlait de cette fameuse lame de fond, elle est assez emblématique du totalitarisme qui vient, qui est un mélange une sorte de recherche de pureté absolue, espèce de nouveau fanatisme, qu'on va retrouver évidemment dans la haine d'Israël, mais pas uniquement, dans un certain écologisme, dans un certain
totalitaire.
Un discours totalitaire qu'on va retrouver aussi.
Ouais.
Je vous dis, la grande erreur, ce serait de penser finalement la diabolisation d'Israël uniquement à partir de la question israélo-palestinienne. On ne peut vraiment comprendre ce qui est à cette lame de fond que si on s'intéresse à d'autres phénomènes qui ont cours en Occident. Voyez notamment la diabolisation lorsque vous traitez du sujet de la transidentité. On en parle aujourd'hui, ça prend des proportions faramineuses, délirantes.
Donc l'antisémitisme ou l'antisionisme n'est pas, selon vous, donc des éléments isolés, et ça appartient à un mouvement plus général que vivent les sociétés en général. Est-ce qu'on est à une époque inquiétante?
Bah, attendez, je voudrais préciser ce que je voulais dire. Quand je dis c'est pas isolé, l'antisémitisme et l'antisionisme ont une histoire qui leur appartient en propre.
Oui.
Ça, il y a pas de problème là-dessus. Il s'agit pas de dire, il faut penser l'antisémitisme toujours vraiment connecté à d'autres éléments. Ça a une histoire qui lui appartient. Il y a une histoire d'antisémitisme, il y a une histoire d'antisionisme. Mmh. Ce que je dis simplement, c'est que la vague de fond de la diabolisation d'Israël, il faut le relier à d'autres éléments. Voyez, par exemple, le phénomène des Queer for Palestine. Phénomène, quand même, qui est assez majeur. Mais vous avez la même intolérance. Vous avez un certain nombre de mouvements trans, qu'il faut quand même distinguer des mouvements LGBT stricto sensu.
Alors, les définir. Oui, ces mouvements, oui.
Bah, c'est les mouvements qui se définissent, qui se réfèrent au mouvement queer, qui remettent finalement en question, ils sont finalement dans pour dire rapidement les choses, dans la filiation de Judith Butler, dans la remise en cause toutes les questions d'identité de genre, identité biologique, identité sexuelle. Et souvent, on retrouve, souvent même de façon récurrente, même ces mouvements-là, on les retrouve vent debout, on les retrouve en pointe dans la diabolisation d'Israël. Aux États-Unis, Judith Butler est une des personnes qui fait le plus pour diaboliser Israël. Et je dis simplement qu'on ne peut pas cette intolérance rabique qui s'exprime, on ne peut pas la penser simplement à l'aune simplement d'Israël, du conflit israélo-palestinien. Voyez simplement ce qui se passe avec Dora Mouto, Marguerite Stern, qui publie un livre sur la transidentité, qui vivent une campagne de diabolisation délirante. On me dira, mais quel rapport avec le sujet Israël-Palestine? Si, c'est un rapport, parce que vous retrouvez les mêmes mouvements qui se mobilisent, ces mouvements qui vous disent une TERF, une balle, justice sociale. Ce sont les mêmes mouvements, les mêmes militants que vous allez retrouver dans la haine absolue de l'État d'Israël. Et vous retrouvez LFI qui évidemment est engagé dans ce type de combat, de mauvais combat. Donc évidemment tout ça a un lien. Et ce serait une erreur magistrale de ne penser uniquement les choses, on va dire, de façon communautariste.
Donc c'est bien l'époque. C'est bien l'époque qui est une époque inquiétante. On passe peut-être un moment comme cela, qui peut inquiéter à juste raison. Est-ce que vous avez, vous qui observez la société, est-ce que vous avez une idée de jusqu'à quand, jusqu'où même, jusqu'à quand et jusqu'où ça peut aller?
Tout dépend le type de réaction, et notamment tout dépend le type de réaction, parce que dans la communauté juive, on va mettre des guillemets à ça, ça aussi, c'est une expression toute faite, mais bon, on va l'utiliser par facilité dans la communauté juive, vous avez des tout le monde, grosso modo, est propice à réagir, à dire que c'est inquiétant, etc. La question, c'est est-ce que les gens sont prêts politiquement à poser les vraies questions et à entendre véritablement des solutions. Moi, ce que je vois, c'est que dans la fameuse communauté juive, vous avez des gens qui sont toujours sur le logiciel des années 80 et qui vous expliquent que, qu'en gros, le danger, c'est CNews. Vous avez des imbéciles.
15 secondes, oui.
Voilà, vous avez des imbéciles, je pèse mes mots, qui en sont toujours là. Donc si la communauté juive officielle, si par exemple le CRIF, je ne sais pas quelle est leur position, mais si leur position c'est ça, bon, ben, dans ce cas, il vaut mieux s'abstenir de parler, ça ne sert à rien. On perd notre temps, là. Voilà.
Merci, Olivier Douman. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre fenêtre ouverte sur le monde.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.
Il est 9h30 et tout de suite, c'est le rappel des titres avec Eva Soto. Eva, bonjour.
Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité en Israël, le 223e jour de guerre contre le Hamas et 5 soldats de Tzal tués. Roy Bet Yaakov, 22 ans d'Eli. Gilad Arye Boim, 22 ans de Carnei Shomron. Daniel Chemu, 20 ans de Tibériade. Ilan Cohen, 20 ans de Carmiel. Bezalel David Chachouar, 21 ans de Tel Aviv. Ils ont été victimes de tirs amis à Jabalia hier soir. Un char opérant aux côtés des parachutistes dans le camp de Jabalia a tiré 2 obus sur un bâtiment où ils étaient rassemblés vers 19h. L'enquête est toujours en cours. Dans le nord, cette nuit, Tzal a frappé Baalbek au Liban. C'est la frappe la plus profonde dans le pays du Cèdre, à 82 km de la frontière, en riposte à celle d'un drone lancé par le Hezbollah qui a frappé une zone de Basse Galilée. Tzal a aussi frappé un site de lancement de roquettes du Hezbollah. Au chapitre politique, le gouvernement israélien divisé sur l'après-guerre à Gaza. Benny Gantz, le ministre du cabinet de guerre, apporte son soutien à Yoav Gallant, le ministre de la Défense, a rejeté toute gouvernance civile ou militaire d'Israël à Gaza après la guerre et il a publiquement remis en cause les déclarations de Benjamin Netanyahou sur la question. Le premier ministre lui a répondu qu'il ne voulait ni de Fatarstan ni de Hamastan à Gaza. Une délégation israélienne au Caire, elle est sur place pour tenter d'apaiser les tensions avec l'Égypte sur la question du terminal de Rafah suite à sa prise de contrôle par Israël pour éviter que le Hamas fasse main basse dessus. Le Caire a stoppé tout envoi d'aide humanitaire à la bande de Gaza. Aux États-Unis, le président d'une université d'État de Californie du Sud se met en congé. Il venait tout juste d'accepter un boycott universitaire d'Israël dans le cadre d'un accord avec des étudiants se présentant comme pro-palestiniens. En Nouvelle-Calédonie, l'instauration de l'état d'urgence, des renforts du RAID et du GIGN ont été envoyés sur place. Les indépendantistes refusent la réforme constitutionnelle pour permettre aux Calédoniens, notamment issus de l'immigration asiatique, de voter aux élections provinciales. Ces violences ont déjà fait 4 morts, dont un gendarme de 22 ans. Pillage, vol, révolte, agression. Les habitants sont terrés chez eux. L'état d'urgence est entré en vigueur à 20h hier soir.
Merci Eva, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le journal complet.
Radio J.
Le 9-10, Léa Moscona.
Allez, restez avec nous, on va marquer une petite pause. Et puis dans un instant, le direct d'Israël. Nous retrouvons Cathy Choukroun, journaliste sur Kalita.
Radio J.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière.
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine, grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël ? Préparons ensemble votre Alia.
L'agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h.
Inscription obligatoire sur agencejuive.org.
L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Léa Moscona.
Radio J.
Excellente matinée à l'écoute de Radio J. Allez, on prend la direction de Jérusalem pour le direct d'Israël. Et ce matin, j'ai le grand plaisir d'être en ligne avec Cathy Choukroun, qui est journaliste sur Studio Qualita. Bonjour à vous, Cathy.
Mais bonjour Léa, un plaisir pour moi d'être avec vous.
Mais le plaisir est partagé. Alors Cathy, vous êtes journaliste sur Qualita, on connaît bien Qualita, qui est ce média, une sorte de valeur ajoutée au monde, hein, de l'intégration en Israël. Qualita qui est d'abord un média qui observe l'actualité en Israël sous le prisme de l'intégration. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous parler de vos constats sur la société israélienne. Quel est l'état d'esprit des Israéliens ? Comment la société a-t-elle vécu, Cathy, les derniers événements commémoratifs ? Et on sait combien ces journées sont importantes en Israël, Yom HaShoah, Yom HaZikaron et Yom HaTzmaout.
Ouais, ben ça a été, on va dire, d'abord on s'est posé la question comment on allait fêter ces jours-là, ou en tout cas commémorer ces jours-là. Certains se sont dit, est-ce qu'on va fêter le Yom HaTzmaout, est-ce qu'on a le cœur à le faire, et d'autres se sont dit, mais oui, bien sûr, on va fêter Yom HaTzmaout, on n'arrêtera jamais de fêter cette fête nationale et de célébrer la création de l'État. Bon, on va dire qu'avec toutes les pertes terribles qu'on a vécues, que ce soit dans la société civile ou chez les soldats, toutes les familles endeuillées, on va dire que le Yom HaZikaron, on va peut-être commencer d'abord par le Yom HaShoah, parce que vous savez très bien que ce sont une semaine un peu chargée. Oui. On commence par le Yom HaShoah avec cette fameuse sonnerie où tout s'arrête pendant une minute. C'est toujours extrêmement extrêmement émouvant. Si vous êtes sur la route, si vous êtes n'importe où ailleurs, tout le monde se fiche pendant une minute pour penser aux 6 millions de Juifs qui ont été persécutés. Mais cette année, ça a une résonance encore plus forte, parce que malheureusement, le Hamas a voulu nous tuer à l'intérieur de nos frontières, il nous a tués à l'intérieur de nos frontières, et ça, on va dire que ça a rappelé à beaucoup de gens ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment.
Oui, et même si certains disent qu'on ne peut pas appeler ça Shoah, c'est une question de sémantique, mais en tout cas, c'est la première chose qui est arrivée à l'esprit des Israéliens tout de même.
Oui, on était vraiment, on est groggy, quoi. On va dire que depuis le 7 octobre, on est constamment dans ce genre de commémoration, parce qu'on va à des enterrements, parce que nos enfants qui sont à l'armée ont perdu leurs copains, parce que nos amis avec qui on vit depuis qu'on est arrivé en Israël ont perdu leurs enfants, parce que tout le monde est touché, de près ou de loin. Tout le monde a quelqu'un, et si les gens n'ont pas été blessés ou tués, ils sont déjà enrôlés, ils sont à l'armée, c'est compliqué.
C'est une inquiétude générale.
C'est pas simple, mais...
Alors, vous disiez...
Une inquiétude générale, on sent que c'est pas comme d'habitude.
Ouais. Alors, vous disiez que pour le Yom HaTzmaout, donc une semaine après le Yom HaShoah, il y a deux comportements que les Israéliens ont voulu adopter. Bah, d'une part, c'est plus fort que la joie n'y était pas, mais d'autre part, cette volonté coûte que coûte d'avoir de la joie malgré tout pour montrer finalement qu'Israël est toujours là.
Mais bien sûr, et puis je vais vous dire, certains ont redoublé de joie malgré les difficultés. Vous savez, il y a une tradition en Israël pour le Yom HaTzmaout, c'est que la veille, puisque chez nous tout commence la veille, donc la veille, eh bien, les amis se rencontrent ou chez eux, ou dans des parcs, ou dans des bois. Ils font des grands feux de camp. Certains font ça, il y en a beaucoup. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient leurs enfants malgré tout mobilisés à Gaza pour l'opération de Rafia. Ils l'ont quand même fait. Ils ont quand même amené les guitares. Ils ont quand même chanté. Ils ont quand même célébré en chantant le Hallel, bien sûr, pour célébrer comme il se doit la création de l'État d'Israël, ce 76e anniversaire. Et malgré tout, parce qu'il faut continuer, parce que c'est ainsi que ça se passe ici.
Mais bien, oui, c'est ça.
Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont célébré. Il y a eu des gens qui ne l'ont pas fait, évidemment, mais beaucoup de gens célébraient. Cet anniversaire. Alors, ce qui est aussi un classique pendant ces gens-là, c'est qu'il y a, en tout cas pour le Yom HaTzmaout, il y a le grand concours biblique international. Mmh. Et là, c'était aussi très émouvant parce que celui qui a gagné était un élève d'un directeur d'école extrêmement connu à Jérusalem qui a perdu la vie à Gaza il y a quelques mois. Le directeur s'appelait Erkovitch. C'est une personnalité absolument incroyable. Et le fait que ce soit un de ses élèves qui ait gagné, alors vraiment, c'était extrêmement bouleversant et émouvant. On peut dire que toutes les cérémonies qui ont eu lieu, toutes les grands rendez-vous dont on a l'habitude pour ces trois jours de fête, entre guillemets, en tout cas de commémoration pour célébrer l'anniversaire de l'État d'Israël, avaient tous un lien avec le 7 octobre, malheureusement. Je suis obligée de parler du Pras Israël, parce que vous savez que pendant ces journées-là, on allume des flambeaux, les maswot, ça s'appelle en hébreu, et on donne aussi le prix d'Israël. On célèbre en fonction des catégories le prix d'Israël. Il y a un discours qui a été donné par Menachem Kalmanzon, si vous avez entendu, je ne sais pas, du Tzevet Elchanan. Le Tzevet Elchanan, c'était trois soldats. Elchanan, qui malheureusement a perdu la vie à Berry. Ce Menachem et puis un autre soldat, ils étaient tous les trois, ils sont partis de leur propre chef pour venir en aide à leur frère qui était sous le feu des terroristes. Et il a fait un discours absolument bouleversant qui, je pense, fera date dans l'histoire d'Israël. Il a dit « Lama anachnupo », mais pourquoi nous sommes ici ? Il a expliqué en disant que Israël devait être la lumière des nations, qu'on devait, après les luttes intestines qu'on a vécues avant le 7 octobre, après les failles qui ont été mises à jour dans la société israélienne, eh bien, il a expliqué que quand il est arrivé à Berry, que les gens étaient terrorisés, terrés chez eux, une fois qu'ils avaient éradiqué tous les terroristes, il a raconté que pour les faire sortir de chez eux, pour leur expliquer qu'ils étaient en sécurité, les gens ont demandé, mais parlez-nous en hébreu, qu'on entende votre accent, et finalement, ils n'ont pas parlé, mais ils ont crié le schéma Israël. Et ce n'est que quand les gens ont entendu le schéma Israël qu'ils sont sortis. Et il a expliqué, ce jour-là, le schéma Israël n'était pas une tchila, n'était pas une prière, mais c'était un cri de rassemblement, un cri identitaire. Ami ou dit, je suis juif, et il n'y a rien d'autre qui compte, c'est ça. On est tous frères, et ils l'ont vraiment ressenti dans leur chair, quoi.
Ouais, c'est vraiment
un peuple méritant. Enfin bref, un discours extraordinaire.
Ah bien sûr, et c'est vraiment. un moment extraordinaire et qui n'a jamais été inédit. J'ai envie de dire inédit qu'Israël est en train de vivre. Et dans tout cela, il y a eu une petite lumière avec l'Eurovision, Cathy. L'Eurovision et le comportement admirable.
Il y a eu beaucoup de lumière, Léa. Il y a eu beaucoup de lumière.
Oui.
C'est pas seulement Eden. Il faut dire que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de malheurs, beaucoup de catastrophes, beaucoup d'enterrements, beaucoup de peine, de chagrin, de perte terrible. Mais il y a aussi de la lumière parce que forcément, de toute cette situation, naîtra un renouveau, une autre façon de vivre en Israël. On n'y est pas encore, mais ça va arriver. Mmh. C'est évident, ça se sent dans, alors peut-être pas encore dans la classe politique, mais ça se sent au milieu du peuple. Les gens veulent du changement, veulent que de tout ça sorte quelque chose de positif. Mmh. Et vraiment, j'espère que ce sera ça. Alors oui, Eden,
qui avait une prestation remarquable et où tout le monde a admiré son comportement, comment elle a réussi à se fermer aux huées et à toute cette polémique et ses comportements très agressifs envers elle pendant ces quelques jours et la prestation qu'elle a donnée. Est-ce que ça a donné du baume au cœur aux Israéliens dans la société en général?
Mais bien sûr, d'abord, Eden, on va dire qu'une étoile est née, franchement, elle est extraordinaire, comme à l'écran, elle est vraiment comme ça dans la vie. Alors, ce qui était très mignon, c'est qu'elle a été encouragée par Benjamin Netanyahou juste avant de partir, et ce qui a été super sympa, d'abord, elle a été accueillie à l'aéroport quand elle est revenue comme une star.
Oui.
C'était très émouvant, elle qui a été, on va dire, héroïne, qui n'a pas craqué sur la scène quand elle était huée ou spillée par tous ces antisémites. Quand elle est arrivée à l'aéroport, elle a pleuré dans les bras de ses parents. Elle est redevenue une jeune fille de 20 ans qui attendait le réconfort tout simplement et les bras de sa famille. C'était vraiment très émouvant. Et puis, ce qui était très sympa, c'est qu'elle a été invitée dans une émission satirique très connue. Vous connaissez sûrement Eretz Nederet. Alors, voilà, c'est vraiment, on va dire que c'est nos guignols, en gros, parce que ce sont des vraies personnes qui pastichent toute la classe politique, les artistes, tout le monde y passe.
Mm-hmm.
Et donc, elle avait ce soir-là son clone, mais vraiment, elle nous ressemblait comme deux gouttes d'eau. Et c'était très, très drôle. Et à la fin de la prestation de cette actrice, eh bien, Eden est arrivée sur le plateau, tout le monde l'a applaudi, ils l'ont remerciée chaleureusement, ils l'ont embrassée. Puis elle s'est prise au jeu, hein, elle a refait, vous savez, sa posture quand elle se met en arrière, comme ça, ils ont dit non, tu vas te casser. Enfin, c'était très drôle.
Oui.
Et donc, voilà, elle était toute mignonne et adorée par les Israéliens.
Mmh. Alors justement, ce qu'a vécu Eden Golan en Suède, hein, ce qu'elle a vécu, c'est l'expression de cette augmentation exponentielle des actes anti-israéliens, antisémites. Il y en a eu en France, mais il y en a partout dans le monde. On le voit à travers les universités. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour la société israélienne ou bien est-ce qu'ils sont vraiment trop préoccupés par la situation et le conflit dans leur pays plutôt que ce qui se passe à l'extérieur?
Non, bien sûr, on en parle, c'est vrai, bien sûr que tout le monde en parle, il y a des articles, mais je veux dire que le gros de l'information, c'est quand même ce qui se passe en ce moment à Rafia, c'est ce qui se passe dans notre pays du point de vue sécuritaire, ce qui se passe à la frontière du Liban, on a quand même des blessés, des morts tous les jours, là il y a encore une catastrophe aujourd'hui. C'est vraiment pour les Israéliens la préoccupation première. Mmh. Évidemment que l'antisémitisme est inquiétant, mais je pense que ce qui se passe du point de vue sécuritaire sur le terrain chez nous, ça a vraiment dans le cœur des Israéliens la première place. Ouais.
Alors Cathy, je le disais, hein, vous êtes journaliste à Qualita, et comme on le disait, Qualita, c'est le média qui aide à l'intégration en Israël, qui observe la société israélienne à travers ce prisme justement de l'intégration. Alors concernant les Olim que vous êtes amenés à rencontrer, et ceux qui vivent déjà en Israël depuis quelques semaines, quelques mois, qui étaient là le 7 octobre, est-ce qu'ils sont totalement à l'unisson avec les Sabra ou est-ce qu'ils ont une particularité parce que français d'origine, j'allais dire?
Bah, d'abord, vous savez que les Français sont en général très sionistes, donc on va dire qu'il y a eu un regain pour certains de sionisme. Bon, les réactions évidemment sont différentes parce qu'on est tous des êtres humains, des individus, et chacun réagit différemment. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient, on va dire, en stand-by ou qui voyageaient énormément, qui étaient entre deux, etc., et qui depuis le 7 octobre, se sont attachés à Israël, ont changé leur vision des choses, ont compris que leur point d'ancrage, c'était ici et nulle part ailleurs. Il y a eu beaucoup de réactions dans ce sens-là. C'est très touchant d'ailleurs, franchement. Et malgré les difficultés, malgré tout...
Ça consolide, vous voulez dire ?
Les gens sont...
Ouais. Ça consolide.
Oui, ça consolide vraiment, ouais. Ça consolide.
Mm-hmm. Alors,
ça a consolidé le lien que j'avais ici. Mm-hmm. Et j'aimerais pas être ailleurs, je crois.
Mm-hmm. Alors, donc Kalita qui est le relais avec Séolim de France et Israël, est-ce que depuis le 7 octobre, en tout cas, est-ce que vous avez des chiffres peut-être qui nous indiquent ou votre impression tout simplement, Cathy, sur le nombre, vous savez, le jour de Yom HaTzmaout, on fait un petit peu le décompte hein, de la population depuis la création de l'État d'Israël, il a été publié hein, 3,4 millions d'immigrants. Est-ce que vous, depuis le 7 octobre, vous avez vu concernant la France, un changement particulier au niveau de l'arrivée des Olim?
Alors, de l'arrivée, pas encore, c'est encore tôt. Il faut dire que l'année dernière a été une année très basse en termes d'alliage. Je crois qu'on était à peu près en 2023 1800 nouveaux immigrants, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais quand on en croit les prédictions, ou en tout cas les perspectives, les dépôts de dossiers à l'agent juif pour une alliage prochaine, on parle de 450% d'augmentation de dépôts de dossiers. Alors, est-ce que tout ça va être concrétisé? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience très importante parmi les Juifs de France, même si c'est pas toujours facile de tout quitter, de partir. Pour certains, les choses deviennent plus claires. Ça c'est certain, quoi. Mm-hmm. C'est sûr que vu ce qui se passe aussi dans les universités, de tout ce qui s'est passé, les parents aussi s'inquiètent pour leurs enfants. Et alors, tout le monde ne prend pas la décision de venir en Israël, évidemment, mais c'est vrai que ça a créé, on va dire, une augmentation très importante des demandes, ou en tout cas des projections d'Alia. Oui. On verra si ça va se concrétiser. On l'espère. Mmh. Voilà, maintenant, nous, en temps normal, si vous voulez des chiffres, on s'occupe, on va dire, en tout cas à Kalita, d'environ 2000 nouveaux immigrants par an qui passent dans nos bureaux, que ce soit pour des services liés à l'emploi, pour essayer de trouver un boulot, pour refaire son CV, que ce soit pour avoir besoin d'un soutien pour les familles qui sont en difficulté, ou alors tout simplement pour des aides plus ponctuelles avec l'administration israélienne, avec la sécurité sociale, des choses qui sont nouvelles pour eux et qu'ils ne connaissent pas. Et donc, on a besoin parfois d'avoir un coup de main, un coup de pouce pour comprendre. Et c'est aussi le but de Kalita.
Oui, voilà, parce que
Kalita, il y a le studio, bien sûr.
Oui, c'est ça.
Mais il y a aussi la maison mère, l'association qui aide les nouveaux immigrants.
Donc Kalita, ça émet le matin, donc en direct. Comment les Israéliens, enfin les Français, les Olim qui arrivent en Israël et qui veulent écouter Kalita, comment font-ils? Peut-être en direct et peut-être aussi en podcast.
Donc, bien sûr, c'est très facile puisqu'en fait, on fonctionne un peu comme une web TV. Mmh. Ça veut dire que toute la journée, les informations sont à disposition de tous sur les différentes plateformes. On est mis sur Instagram, sur X, sur Facebook, bien sûr sur YouTube. Donc en fonction des supports sur lesquels les gens sont habitués à nous écouter, vous tapez Kalita sur le support et puis vous tombez soit sur le direct, soit sur les podcasts qui sont, on va dire, ordonnancés par playlist. C'est assez facile. En fonction des sujets qui vous intéressent, vous trouvez de tout, quoi. Parce qu'on on essaie de traiter tout ce qui a trait à la société israélienne.
Bien sûr. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, donc l'association qui est vraiment, quand je dis le relais, c'est parce que effectivement, un autre pays, c'est une autre administration, c'est un autre fonctionnement, et que bien souvent, ce sont les difficultés principales des Olim de France quand ils arrivent en Israël, c'est de savoir comment naviguer entre les différentes instances. Et ça, la Kalita peut clairement aider les gens.
Mais bien sûr, c'est le but. Et puis si Kalita n'a pas l'information aussi, par exemple, ça relève d'un autre domaine, eh bien le but aussi de Kalita, c'est de rediriger vers d'autres associations. Il y a à peu près 40 associations qui sont font partie de Qualita. Donc c'est vraiment, on essaie de travailler de concert avec toutes les institutions francophones qui existent, de façon à faciliter l'intégration des nouveaux immigrants. C'est le but, pour que les choses se passent bien et que les gens restent et se sentent bien en Israël. C'est vraiment tout ce que je souhaite au peuple juif. Voilà. Mmh.
Et puis,
envie de venir, ben je leur souhaite de pouvoir réaliser ce rêve.
C'est un joli et un souhait que effectivement on va souhaiter également. Enfin, on va prononcer pour les gens qui veulent aller en Israël. Cathy, vous avez également, bien sûr, à travers Qualita, vous rencontrez quotidiennement des gens. Est-ce que vous avez des histoires d'Olim à nous raconter, des exemples, des illustrations pour nous dire comment ça peut se passer pour une famille, pour des célibataires, peut-être privilégier une famille qui a vécu une histoire particulière.
Il y en a beaucoup. J'en ai rencontré énormément de par les émissions qui s'appellent Ayatori. Vous pouvez les trouver, où là c'est carrément c'est des gens comme vous et moi qui racontent leur histoire, qui racontent comment ils sont partis, pourquoi ils sont partis. Il y a toujours des éléments déclencheurs, c'est ça qui est intéressant. Il y en a tellement. Je pense à un petit, un docteur, assez jeune, de 32 ans, qui est monté par amour en Israël parce qu'il avait rencontré sa belle-fille en France. Il n'avait pas prévu de venir en Israël et finalement il est venu en Israël. Il n'avait pas prévu de faire l'armée, c'était pas du tout à son programme. Et finalement, il avait fait l'armée, il avait pas prévu d'y rester. Et finalement, il continue de travailler pour l'armée. Il a décidé de consacrer 2 jours par semaine à Tsahal. Il a été bouleversé par le travail qu'il a fait pendant le 7 octobre. Au début, il s'est dit « Oh là là, c'est administratif, qu'est-ce que je vais faire ?» etc. C'est pas super fun. Mmh. Et finalement, il se retrouve en contact avec des blessés très graves, avec des familles. Il a vu comment il pouvait aider, un sourire, une parole. Et puis surtout, ce qu'il m'a raconté, c'est qu'il a dit, mais c'est ils sont tellement forts. Il m'a dit, je voyais des petits jeunes tatoués, rasés, je les aurais même pas regardés dans la rue. Mm-hmm. Et finalement, c'est eux qui nous défendent, ils sont absolument extraordinaires. Il y en avait qui étaient vraiment blessés très graves. La seule chose qu'ils demandaient à leur réveil ou au cours de leur rééducation, c'est quand est-ce que je repars. Il nous raconte ça avec des étoiles dans les yeux, en se disant que vraiment, on est un peuple complètement atypique, extraordinaire.
C'est-à-dire finalement, certains juifs, certains israéliens, se sont révélés à ce moment-là, à un moment dramatique, au moment dramatique du 7 octobre, et finalement, une révélation.
Vous savez, quand on à un moment on parlait en France de la génération bof, c'est exactement la même chose. On a l'impression qu'ici, à Tel Aviv, allez, chacun vit pour soi, etc. Oui. Finalement, c'est fou. On est tous des frères, chacun, malgré les différences, malgré les divergences, tout a été mis de côté. Et quand il a fallu partir se battre, tout le monde est parti se battre sans se poser de questions, sans demander ni le degré de religion, ni le contexte politique, rien du tout. Mmh. On est là, on est sur cette terre et on doit la défendre. Il n'y a pas le choix.
Lama anachnu po.
Malgré tout.
Lama anachnu po.
Voilà, c'est exactement ça. Pourquoi nous sommes là, tout à fait. Oui, c'est exactement ce que Menachem Kalmazon a dit dans son discours. On reconstruira ce qui a été détruit. On n'oubliera pas nos frères. C'est une guerre identitaire. On va la gagner malgré tout, malgré la difficulté. C'est un message d'espoir vraiment très fort, quoi.
Merci.
Je reviens sur ça parce qu'il nous a tous bouleversés.
Et ce sera la jolie phrase de fin. Merci infiniment, Cathy. Cathy Choukroun, qui est journaliste sur le média Qualita, Studio Qualita. On peut vous retrouver tout simplement en tapant sur un moteur de recherche Qualita, Cathy Choukroun, et on pourra vous voir sur cette web TV. Merci infiniment, Cathy. On pense à vous et puis à très bientôt sur Radio J.
Radio J, le 9-10, Léa Moscona, Radio J.
14h-15h, le grand journal, Steve Nadjar.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h. À tout à l'heure.
Radio G.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière.
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine. Grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Radio G, le 9-10, Léa Moscona.
Dans deux petites minutes, il sera 10h. Merci d'être avec nous sur Radio J tous les matins, de plus en plus nombreux, me dit-on. Et je me tourne vers ma gauche pour te dire, parce qu'elle est là, c'est Lise Gutmann pour le 10-11 et c'est le magazine du 10-11 Info, Culture, Divertissement pour aller plus loin avec toi, Lise.
Alors, oui, le programme. Bonjour Léa, bonjour. J'adore quand tu dis je me tourne vers ma gauche.
Oui, ma gauche, pour que les gens puissent.
Voilà, imaginer, qu'on visualise. Alors, non. Mais c'est mignon. On va commencer avec les rendez-vous de l'ECUJ avec Jean-François Strouf. Ils ont juste un programme incroyable et très israélien. Ensuite, ce sera les rendez-vous d'actualité juive avec Alexis Lacroix, Laurent Cohen-Couda. À la une cette semaine, 7 mois après, quelle stratégie ? Pour en savoir plus, ce sera à 10h20. Et puis, c'est le grand retour de l'étoile et le jasmin. Avec Maya Naoum, nous recevons ce matin Shoshana Boukobza pour son livre « Les femmes d'Auschwitz-Birkenau ».
Voilà. Voilà un programme chargé.
Oui.
On reste avec toi, évidemment, par les ondes de 94.8 sur Radio J. Merci. Puis on peut retrouver les émissions en podcast également.
Ah bah évidemment, sur radioj.fr. Voilà. Et on nous écoute aussi sur DAB+.
Bien sûr.
Voilà.
Alors, bonne matinée et à demain.
À demain, Léa, 9h.